à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, une recette de la prospérité avec le prix Nobel d'économie 2006, l'américain Edmund Phelps, qui sera notre invité à l'occasion de la sortie de son livre. Chez Odile Jacob, la prospérité de masse, c'est un retour sur les racines historiques et intellectuelles des économies modernes, une quête de ces valeurs modernes qui ont fait le succès de nos économies jusqu'au milieu du XXe siècle. Nous allons en reparler avec lui à partir de 12h55, après le journal d'Antoine Mercier. Avant cela, c'est quand il réfléchit que l'acrobate tombe du fil. Mardi, cinéma avec le très beau film d'Anne Fontaine, Marvin ou la belle éducation en salle demain. Un récit d'apprentissage, une histoire de rencontre, des corps et des mots. On va donc pas trop réfléchir, on va surtout tenter de ressentir et vous en parler tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Jesbert.
20 ans après l'impudique nettoyage à sec avec Miu Miu et Charles Berling.
Tu sais, j'ai beau faire des efforts, mais plus le temps passe et plus je pense que je suis pas faite pour ce boulot. Nettoyer la merde des hommes.
Et on peut pas continuer comme ça. On est allé beaucoup trop loin.
Trop loin pour qui? Pour cette histoire, t'as jamais été très nette.
Parce que je sais que c'est plus possible.
Et un an après, le très pudique film Les Innocentes, qui nous plongeait dans la vie de religieuses en Pologne en 1945, violées par des soldats soviétiques qui ont fait irruption dans le couvent.
Malade, polonaise.
Tout a été confiance.
Femme va mourir.
Combien d'entre vous sont dans cet état?
7. Pour nous, quand ils ont fait irruption dans notre couvent, cela a été une horreur.
Nous retrouvons la réalisatrice Anne Fontaine aujourd'hui aux côtés de Marvin. C'est son nouveau film, il sera en salle demain. Le parcours initiatique d'un jeune garçon qui a grandi dans une famille de prolétaires vosgiens, travaillé par son désir pour les garçons, par sa différence, harcelé par ses camarades d'école, sauvé par le théâtre, par un cercle bienveillant aussi et les rencontres qu'il fera plus tard dans l'anonymat de la capitale. Marvin ou la métamorphose, bande-annonce.
Ma mère, elle soupçonnait pas du tout ce qui m'arrivait au collège.
Qu'est-ce que t'as sur la figure, toi?
Il y a eu de la baston ou quoi?
Elle me posait pas de questions, elle était pas très attentive.
Qu'est-ce que t'as encore le squelette, c'est pas bon?
J'ai pas très bien le fond.
Qu'est-ce que vous faites là, Bijou?
J'ai raté le bus, madame.
Vous n'allez pas rester là à traîner comme ça.
Tu veux essayer, Marvin?
Essayer quoi?
D'improviser.
T'appelles ça élever un monde, toi? Une vraie gonzesse, vous avez fait de lui, sérieux?
Tu te rends la journée, t'es même pas foutu d'aller chercher Marvin?
Le moins vivant cramera pas une goutte d'essence pour ces conneries de théâtre. Pourquoi il nous fout la honte comme ça aussi avec sa manière de peiner?
Je me suis sauvé pour devenir quelqu'un d'autre. C'est-à-dire soi-même.
Puisque vous êtes comme moi, bah, faites quelque chose de votre différence.
Anne Fontaine, bonjour.
Bonjour.
Échapper à sa condition, se hisser socialement, une série d'épreuves à surmonter dont on ressort grandi, sentimentalement, intellectuellement, se sauver pour devenir quelqu'un d'autre, c'est-à-dire soi-même, entend-on dans la bande-annonce du film. C'est ça que vous appelez la belle éducation?
C'est inventer sa vie. Et c'est un parcours, comme vous avez dit, initiatique, assez bouleversant de ce jeune garçon qui, au départ, est exilé dans sa propre famille, qui est comme un étranger, qui est différent, donc qui est fragile, qui est très beau, qui n'a pas de regard sur lui. Ses parents, c'est pas qu'ils ne l'aiment pas, c'est qu'au fond il n'arrive pas à détecter la solitude et ce qui se passe en lui. Et au fond, d'inventer sa vie, c'est quoi? C'est d'arriver à faire de sa différence une force vitale, d'arriver à transformer, à transcender finalement Cette difficulté de départ, ce mauvais départ, comme dit le personnage au départ, et les regards qui vont se poser sur lui, notamment le premier. Dans la bande-annonce, on dit « vous allez improviser ». Improviser, c'est commencer à inventer. Improviser, c'est restituer les dialogues qu'il a écoutés dans sa propre famille et en faire une théâtralisation, en faire quelque chose qui fait que tout d'un coup, il y a un regard. Il peut regarder son passé avec de l'énergie positive.
Improviser leur vie, imaginer sa vie, c'est justement ce que ses parents n'ont pas choisi ou ne sont pas parvenus à faire. Ils restent le produit de leur éducation limitée, ils ne sont pas foncièrement mauvais, juste leur éducation, ils ne la remettent pas en question. Les PD sont des malades mentaux, dit le père à un moment, lorsque le petit Marvin lui demande qu'est-ce que c'est en fait être PD, puisqu'il entend souvent ce mot, plus que péjoratif, lui être accolé. La ville, pour le père, c'est l'étranger, c'est un symbole de dangerosité. Voilà, toutes ces choses qu'ils ont pu attendre, ces préjugés qu'ils ont pu entendre à un moment ou à un autre, ils ne les remettent pas en question, en fait.
Non, parce que cette famille est enfermée dans sa propre misère économique, sa misère culturelle. Et c'est des gens qui répètent des phrases qu'ils ont entendues de génération en génération, en fait. Ils les répètent automatiquement, ils ne les pensent même pas, vraiment. C'est même pas de la pensée. Et de voir que cette famille va pouvoir évoluer grâce au parcours du fils qui va... Est-ce qu'on n'éduque pas ses parents à un moment donné? Est-ce qu'on n'arrive pas à les faire bouger? Parce que, comme vous avez dit, l'extraction du déterminisme social est très important, mais le retour vers sa famille d'origine, alors qu'on a réussi à trouver son chemin, est aussi intéressant, je crois, dans le film, parce qu'on voit comment, finalement, les parents vont pouvoir bouger, même ne serait-ce qu'un peu, d'adopter des nouveaux mots, un nouveau vocabulaire, concernant justement la différence et les êtres différents.
Le récit d'apprentissage, ce parcours initiatique Anne Fontaine, c'est un genre qui a déjà été assez travaillé, à la fois par la littérature et par le cinéma, depuis la nuit des temps. Vous avez des grands films comme ça qui vous ont marqué, inspiré, dans votre manière aussi de construire ce récit?
Mais c'est un récit qu'on a voulu, avec Pierre Trividic, le co-scénariste, à deux temps. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfance et l'âge adulte se coexistent de manière alternée.
Pas par flashback.
Non, justement, c'est pas le traditionnel flashback quand on était petit. Non, c'est on avance ensemble. Le jeune garçon, puisque celui qui est devenu adulte, travaille sur son enfance comme terreau créatif. Et donc, il y a une vitalité et au fond, l'enfant qu'il était regarde l'adulte qu'il est devenu et l'adulte qu'il est devenu est en contact avec cet enfant. Donc, c'est une façon de raconter l'histoire qui est assez différente d'une chronique sociale. Moi, j'ai voulu qu'il y ait de la vitalité, que ce soit, qu'il y ait de l'humour aussi. Alors, je pense toujours au roman de l'éducation sentimentale. C'est peut-être pour ça que j'ai fait une référence évidemment à la belle éducation. Tous les romans français qui ont formé, en tout cas, que ce soit les romans balzaciens, Maupassant, Bel Ami, c'est comment un individu se construit. Et le parcours des autodidactes m'ont toujours fasciné, parce que c'est vraiment quelque chose qui est bouleversant, de se dire en soi on peut avoir une lumière, il suffit qu'un autre le détecte, vous pousse dans une direction et vous pouvez exprimer petit à petit ce qu'il y a au fond de vous et que vous ne connaissez pas. Vous êtes ignorant sur ce qu'il y a au fond de vous. Donc c'est... Alors, est-ce qu'il y a un film qui m'a inspiré? Non, j'ai pensé à cette trilogie de Bill Douglas, qui est un metteur en scène anglais, qui a fait 3 films sur l'enfance anglaise, en noir et blanc, magnifique sur l'enfance. Et c'est un film qui m'a beaucoup marqué, enfin c'est une trilogie qui m'a beaucoup marqué, et j'ai trouvé très pur sur le rapport à l'enfance pauvre.
Alors vous repartez effectivement de l'enfance, vous dites, même si c'est pas un récit chronologique, ni totalement linéaire, il faut que ça danse, ce sont d'ailleurs vos mots, Anne Fontaine, avec toujours cette envie quand même qu'il y ait une vitalité, un rythme à travers ce récit. Ça reste un genre un peu codifié, puisque dans l'idée du récit d'apprentissage, il y a forcément un itinéraire tout tracé, des rencontres qui vont le modifier, une série d'étapes qu'il va falloir dépasser, jusqu'au changement de nom pour votre héros, Marvin Bijoux, qui va acter la métamorphose comme un acte de naissance. Il va théâtraliser ensuite sa souffrance en écrivant des pièces, sa propre histoire qu'il va mettre en scène. Et cette pièce, il va l'appeler « Qui a tué Marvin Bijoux ?» Alors en fait, qui a tué Marvin Bijoux? Lui-même?
C'est une façon de jouer avec effectivement son changement d'identité, qui fait hommage à sa principale, jouée par Catherine Mouchet, qui s'appelle Madame Clément. Donc il va prendre le nom de... Donc il va s'auto-baptiser Martin Clément. Et évidemment, qui a tué Marvin Bijoux, c'est métaphorique, c'est en même temps provoquant, c'est lui-même. On a essayé de le tuer aussi quand il était jeune, on a essayé de tuer son identité au départ, puisqu'on ne voulait pas qu'il fasse quoi que ce soit d'autre que d'aller au collège et de se faire harceler. Donc oui, c'est une pièce. D'ailleurs, on en voit un extrait joué avec Isabelle Huppert et le personnage, donc Marvin, au Bouffes du Nord. Et c'est une pièce assez forte, je crois, sur le rapport entre la mère et le fils, qui est évidemment stylisé dans un texte beaucoup plus métaphorique, évidemment, que les phrases qu'il entendait quand il était petit.
Oui, où l'on retrouve d'ailleurs le récit de cette mère qui lui raconte comment elle l'a perdu quand il était dans son ventre, comment elle a perdu l'enfant dans les toilettes, l'enfant qu'elle portait. Là, on retrouve des mots qui sont presque extraits directement du livre d'Édouard Louis, mm-hmm. En finir avec Eddie Bellegueule, dont vous vous êtes très librement inspiré. La mère dit, j'ai entendu dans le livre, hein, il relate ces mots de sa mère, j'ai entendu le bruit, le plouf, quand j'ai regardé, j'ai vu le gosse, alors je ne savais plus quoi faire, j'ai eu peur, et comme une conne, j'ai tiré la chasse. Le gosse ne voulut pas partir, alors j'ai pris la brosse à chiottes pour le faire dégager. Voilà, il faut se construire, il faut réussir à grandir avec un tel récit de sa naissance. Ça va être tout le point de départ et puis tout le parcours, on peut l'imaginer, que va devoir vivre ce garçon splendidement interprété par Finnegan Oldfield quand il est plus grand, qu'on a vu l'an passé dans les Cowboys et Nocturama. Il y a plein d'autres acteurs à l'affiche, Vincent McCain, Grégory Gadebois, Charles Berling, Isabelle Huppert, vous l'évoquiez, et puis le jeune Jules Poirier qui interprète donc Marvin petit. Il est roux, il est un peu efféminé, il est très cultivé, en gros pour ses camarades il cumule les tares. Sa différence, ça va exciter un peu la méchanceté, hein, la malveillance des autres. Être conforme, c'est le prix de la tranquillité dans ce type d'atmosphère.
Bah c'est ça, c'est assez terrible, c'est de la cruauté des enfants, d'ailleurs dans tous les milieux, hein, c'est pas seulement dans ce milieu-là, au collège, le fait d'être roux, le fait d'être gros, le fait d'être noir, le fait d'être... Ça parle vraiment de la différence au sens large du terme, et ce garçon effectivement excite parce qu'il excite la malveillance, parce qu'il est très joli à regarder, il est très vulnérable. Et ce qui est beau chez ce jeune acteur, c'est qu'on sent Jules Poirier, comment tout se met à l'intérieur, comment Il n'exprime pas directement par la révolte des mots, mais comment tout se loge à l'intérieur, et on sent à travers son visage. Alors ça, c'est vraiment cinématographique, parce que de voir un visage qui exprime l'indicible, qui exprime sa solitude, son profond déchirement, sans être impudique, sans être révolté. Mais c'est grâce à ça, finalement, qu'il va devenir aussi bon acteur, aussi fort, aussi puissant. Donc est-ce qu'il faut être conforme ? Moi, je crois à la singularité, je crois aux gens qui ont le courage de sortir des normes. On est dans une époque extrêmement conformiste, et je trouve que c'est au contraire quelque chose d'entièrement stimulant et d'entièrement possible. Sinon, alors, on se range et on ne dit rien et on reste inactif et on subit. C'est horrible de subir. Ses parents, ils n'ont pas eu la chance d'être regardés autrement. Ils sont cloîtrés, ils sont enfermés dans leurs conditions. Ça, c'est terrible. Et ce qui est terrible, c'est de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir respirer, de ne pas pouvoir penser. Non, ça, heureusement, je pense que le film est allégorique sur la quête. La quête, et c'est le mystère humain, la quête. Il y a un mystère toujours. Pourquoi est-ce que telle personne va réussir à braver le conformisme, les conventions, et tel autre dans la même famille n'y arrivera pas. L'éducation joue un très grand rôle, bien sûr, mais il y a aussi un mystère ontologique.
En fait, c'est assez simple, vous le dites dans le film, vous le mettez dans la bouche de l'un de vos personnages. Pour devenir quelqu'un d'autre, il suffit de s'arracher le cœur. Invitez jusqu'à 12h30 la réalisatrice Anne Fontaine pour Marvin en salle demain.
France Culture. La Grande Table. Olivia Jesbert.
Bonsoir.
Bonsoir.
Je suis en première année.
Où ça ?
au théâtre ici.
Ah. Très bien.
Je peux vous parler ?
On est déjà en train de parler là, non ?
Je veux juste vous dire que... je suis comme vous. Je suis exactement comme vous.
Eh, il n'y a pas de problème sans solution, hein. Il y a le revolver, hein. Il y a la corde. Ah, vous pouvez aussi sauter du 10e étage, hein, c'est vraiment très efficace. Hein. Et puis il y a la psychanalyse, mais là, faut pas être pressé. Hein. Si vous êtes comme moi, enfin... puisque vous êtes comme moi, bah... faites quelque chose de votre différence. Hein. C'est à ça que ça sert, le théâtre. Vous le savez, ça. Hein? C'est pas fait pour les chiens, hein. Ça va? On vous appelait comment?
Marvin.
Bonjour, Marvin.
Le personnage d'Abel, metteur en scène et ami de Marvin dans le film, au fil de cette rencontre, il va se passer aussi quelque chose pour lui. Abel, qui est interprété par Vincent McCain, donc, et où beaucoup ont vu en lui le double de Didier Héribon, qui était l'auteur de Retour à Reims, proche d'Édouard Louis, là encore. Qu'est-ce que ce personnage, qu'est-ce que cette rencontre va apporter dans sa métamorphose ?
Donc c'est un professeur de théâtre qui vient de conditions aussi prolétariennes, le personnage donc incarne Vincent McCain, et qui, juste avant cette scène que vous avez écoutée, fait une conférence sur à propos de la différence, et donc parle de l'isolement très très particulier de l'enfant gay qu'il était lui, donc il parle de son cas à lui, et de dire qu'au fond, l'enfant noir qui est aussi stigmatisé à l'école, quand il revient chez lui, sa famille le console, est autour de lui. L'enfant gay, il ressent la même solitude et le même déchirement quand il revient après avoir été harcelé à l'école, quand il revient dans sa famille. Et donc ça fait écho chez le personnage de Marvin à sa propre histoire. Donc c'est une catharsis, c'est comme si pour la première fois il mettait les mots qu'il ressent à l'intérieur de lui. Donc cette rencontre va jouer un rôle déterminant, il va être une sorte de Pygmalion, quelqu'un qui va le prendre sous son aile et qui va l'aider à transformer sa découverte finalement émotionnelle, affective et sexuelle en œuvre d'art. Donc il est très très important dans le film, et Vincent McCain lui apporte aussi beaucoup d'humour et de
tendresse,
d'ironie, voilà, d'ironie, de tendresse. C'est vraiment comme un père, une famille retrouve une nouvelle famille, puisqu'il vit avec un garçon, Vincent McCain dans le film, il est en couple, et donc ils vont l'adopter d'une certaine façon comme dans une nouvelle famille.
Il y a eu un déclic, une prise de conscience, conscience de classe pour Marvin, conscience aussi de son homosexualité et du fait qu'on peut à un moment la mettre à jour aussi, contrairement à l'enfant qui l'était et qui ne cessait de la refouler parce que c'était très mal perçu aussi dans son milieu. Didier Héribon, Édouard Louis, on dit aussi, et ça c'est votre co-scénariste Pierre Trévidic qui revendique directement des accents à la Annie Ernaux, auteur de La Place notamment, des romans sur la honte sociale, c'est comme ça qu'on les a qualifiés, voilà ce qu'en dit Annie Ernaux.
Mon souci premier, c'est de trouver une forme pour ce que j'ai à dire, et qui est issu de ma vie, de ce que j'ai vu, entendu, de ce que j'ai traversé, tout simplement, de mon enfance, du monde autour de moi jusqu'à maintenant, et qui continue évidemment de m'entourer, et de trouver une forme pour ça. Et qu'est-ce que ça veut dire, une forme ? Eh bien, c'est très difficile de l'expliquer, mais c'est justement en dehors de tout modèle. C'est ce qui convient vraiment à ce que je ressens et qui va se devenir une sorte de boule, qui fait boule de neige en moi au cours des années. Et il m'arrive de laisser en jachère très longtemps un texte commencé parce que je ne sens pas que la forme convient. Donc, de parler d'autofiction, de tout cela, non. De toute façon, l'autofiction, c'est tout de même une fiction par rapport aux événements de sa vie. Or, tout ce qui est dans mes livres est de l'ordre de l'authenticité. Voilà.
Annie Arnaud a écrit « La forme pour vous, Anne Fontaine, c'est le cinéma ». Vous diriez comme elle, cependant, que c'est une recherche d'authenticité qui vous guide ou qui vous a guidé jusqu'ici ?
En fait, la part inconsciente qui fait que je choisis un sujet est finalement assez importante. C'est comme s'il y avait quelque chose en moi, une part aveugle, qui me dirige à me dire « c'est le sujet que j'ai envie de raconter en ce moment, dans ma vie ». Il y a toujours des connexions biographiques, personnelles, parce que sinon je ne saurais pas diriger un film, je ne saurais pas inspirer les comédiens. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important, la conquête de la forme par rapport à ce qu'on a à dire, à exprimer, comment on va filmer, parce que la forme au cinéma, c'est de quel point de vue on va filmer, comment on va rendre la sensualité, le mystère. C'est des questions qui sont extrêmement ardentes. Et c'est très beau ce qu'elle dit, c'est vraiment beau l'idée de la boule, c'est physique, elle a décrit de manière physiologique la naissance d'un livre. Et bien sûr, faire un film, c'est de dire quelque chose sur soi. Moi en tout cas, c'est comme ça que je procède.
Mais il vous arrive de partir sur un tournage avec la boule au ventre aussi ?
Bien sûr, c'est un trac permanent parce que c'est quelque chose où on ne peut pas se corriger. Un jour de tournage, il faut faire les plans. Et le doute est tout le temps là. Et plus on a fait de films, plus on se sent fragile, parce que plus le doute est grand, puisqu'on sait que c'est une alchimie tout à fait incontrôlable. Vous savez, les metteurs en scène sont comme des contrôle freaks, ils veulent tout contrôler, tous les plans. Et en fait, il faut laisser aussi les choses se faire. Donc cet équilibre-là est compliqué et complexe à obtenir, bien sûr.
Cette question de la légitimité ou de l'assurance qu'on peut avoir au fil des films, vous pensez que ça c'est un truc de femme, que vos confrères réalisateurs réagissent de la même manière, avancent dans leur parcours avec la même angoisse et ne parviennent pas à se rassurer de film en film,
vous
ou est-ce que c'est le propre de nos vies ?
Vous croyez que... Moi, je crois que c'est la condition humaine d'être avec des doutes. Et seuls les doutes sont intéressants, je trouve. Plus on a de l'expérience, plus on devrait, je trouve, travailler sur une fragilité. Mais je ne pense pas que ce soit le propre des femmes. Je pense que les hommes sont au moins aussi fragiles. Et je ne vois pas de différence de ce point de vue-là.
Vous écrivez vos films, Anne Fontaine, vous êtes auteur à part entière de quasiment tous les films que vous avez réalisés, même si vous partagez l'écriture du scénario. À l'origine de Marvin, il y a En finir avec Eddie Bellegueule, le roman à succès d'Edouard Louis, dont les droits du livre ont été achetés par la production. Depuis, il a pris ses distances avec le film, demandant à ce que son nom n'apparaisse pas au générique. Vous également avez pris un peu distance avec ce livre qui vous a inspiré, mais pas dicté l'ensemble de ce scénario. Sans parler de trahison, qu'Edouard, lui, ait pu se sentir dépossédé quelque part à la lecture du script ou du scénario. Est-ce que ce n'est pas assez compréhensible, au fond, quand une histoire passe par une autre écriture, par l'alambic d'une autre subjectivité ? Est-ce qu'elle n'en ressort pas forcément transformée ? Est-ce que ce n'est pas le propre de l'auteur et de l'écriture ?
Alors, en fait, ce qui est intéressant de savoir de la genèse, c'est que Edouard Louis et son producteur Pierre-Alexandre Schwab sont venus me proposer de faire l'adaptation de En finir avec Eddie Bellegueule. Et j'ai tout de suite eu un grand choc et un grand emballement sur ma lecture du livre. Mais immédiatement, j'ai exprimé à l'auteur que je ne pourrais pas adapter uniquement le livre dans son enfance, uniquement parce que ce qui m'intéressait tout de suite au cinéma, c'était de conquérir le roman ensuite, le roman d'apprentissage, la suite, pas de s'arrêter à l'âge de 12 ans. Et donc, je lui ai mis cette possibilité. Et bien sûr, c'est différent, puisque 70% du film qu'on a coécrit avec Pierre Trévidic n'est pas dans le livre. Mais le livre a été déterminant, et je crois que le cœur de l'enfance est présente. Mais quand il a lu le scénario... Il a quand même décidé que l'adaptation puisse être possible, puisque sinon il n'aurait pas vendu ses droits, comme vous savez. Mais je comprends que pour lui, ce soit différent. C'est pas son livre. Mais heureusement, vous savez, pour faire un bon film, il faut transgresser très, je pense, assez vivement le livre. Sinon, c'est une application en image de quelque chose de fort. Et le livre est suffisamment puissant en lui-même pour ne pas avoir besoin d'être adapté. Donc, pour moi, c'était très clair dès le départ, très 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 clairement exprimé à l'auteur et c'est une aventure différente, bien sûr.
Et sur ce partage d'aventure, ce partage d'expérience, finalement, Édouard Louis ne disait pas autre chose à la sortie de son livre « En finir avec Eddie Bellegueule ».
Il est écrit roman parce que j'ai voulu protéger un certain nombre de personnes et puis parce que c'est une expérience qui est collective, c'est une expérience que d'autres ont vécu, que d'autres vivent, pas seulement des homosexuels aussi. Je me rends compte dans les courriers que je reçois depuis la publication du roman, de gens qui me disent « moi j'étais le petit youpin, j'étais le petit rebeu, j'étais le petit pédé, j'étais la petite grosse ». Et mon roman traite de ça aussi, de qu'est-ce que c'est que d'être un enfant différent et de la guerre qui est menée aux enfants différents. Eddie Bellegueule fait tout pour correspondre aux attentes. C'est pour ça tout à l'heure que je disais qu'il n'était pas en colère et que c'est en fait un dominé qui reproduit sa propre domination, qui essaie de se conformer aux normes et qui n'a qu'une aspiration, justement, c'est d'être comme tout le monde. Et c'est pour ça aussi que, voilà, je répète que le livre n'est pas le récit d'une fuite, puisque à ce moment-là, Eddie Bellegueule donnerait tout, j'aurais tout donné pour être comme tout le monde, pour ne pas être différent. Et ensuite, on se réapproprie cette différence. Mais ça prend beaucoup de temps.
Et vous, quel enfant différent étiez-vous, Anne Fontaine?
J'avais une petite chose assez différente, c'est que je m'appelais déjà Fontaine comme prénom, qui est un prénom qui n'existe pas. Et ça m'a mis dans un drôle de rapport à l'identification garçon-fille. Donc j'étais un peu comme un petit garçon manqué pendant des années. Et puis j'ai vécu à l'étranger. Je me suis retrouvée très jeune, seule, face à mon parcours. Donc et puis je suis autodidacte, je n'ai pas fait d'études. Ni de cinéma, ni donc j'ai une construction assez aventureuse, disons.
Et que vous avez, comme peut-être Édouard Louis, au début, souhaité être comme tout le monde avant d'apprendre à chercher et à trouver votre singularité.
Quand on est enfant, on est très conservateur. On veut surtout ne pas se faire remarquer, être adopté, être aimé. On n'aime pas qu'on nous dise tu es différent et tu es grosse, c'est une souffrance. Et bien sûr, on préfère être normal. Ce mot normal qui ne veut rien dire, évidemment.
De la normalité à la quête de la différence ou de la singularité, l'accepter et en faire quelque chose. Vous en faites des films, en tout cas, aujourd'hui, Anne Fontaine. Merci beaucoup. Marvin ou la belle éducation sort en salle demain. Merci mille fois à vous.
Merci.